Ici, l'ombre.
Les voix captives.
Les voix captives.
Les voix captives.
Les voix captives. This is rhythm.
Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM, il est 17h30 et c'est l'heure de l'émission Ici est l'ombre, les voix captives, émission hebdomadaire du Génépi Île-de-France, association étudiante militant pour le décloisonnement des institutions carcérales. Aujourd'hui nous recevons Virginie Bianchi, ancienne directrice de l'établissement pénitentiaire de Clairvaux et aujourd'hui avocate.
Bonjour Virginie Bianchi, vous êtes avocate, nous vous recevons dans le cadre de l'émission du Génépi, ici l'ombre, les voix captives. Pour commencer notre entretien, nous allons commencer par parler des mesures alternatives à la prison. Et il y en a deux types, il y a des mesures alternatives qui concernent la détention provisoire et celles qui concernent l'exécution des peines. Et pouvez-vous nous expliquer un peu leurs différences entre elles et à quels besoins elles répondent.
Bonjour. Alors, philosophie complètement différente selon qu'on est avant ou après la condamnation. Effectivement, avant la condamnation, donc lorsque l'on est éventuellement susceptible de faire l'objet d'une détention provisoire, le juge d'instruction ou le juge des libertés de la détention peut décider de ne pas vous placer en détention provisoire parce que vous avez suffisamment de garanties de représentation. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes sous contrôle judiciaire qui vise à ce que vous vous représentiez en justice le jour où vous passerez à l'audience. Deux possibilités dans le cadre du contrôle judiciaire, soit un contrôle judiciaire classique, pointage au commissariat, obligation de résider à tel endroit, etc. Ou éventuellement, assignation à résidence ou surveillance électronique, qui est une mesure un peu plus contraignante, mais qui permet, pour les juges un peu inquiets, de garantir le fait que vous n'allez pas vous sauver en attendant que votre procès se tienne. Donc ça, c'est pour ce qui est d'avant la condamnation. Une fois que vous êtes condamné, plusieurs possibilités. Soit la juridiction de jugement, celle qui prononce la peine, prononce immédiatement une mesure alternative à l'incarcération, qui peut être une semi-liberté, qui peut être un placement sous bracelet, qui peut être un placement extérieur. Ce sont des mesures qui font que vous allez subir une peine, mais qui ne sera pas une peine dans le cadre de la prison. Autre possibilité, à l'issue de votre jugement, vous êtes incarcéré. Et à partir de ce moment-là, quand vous serez dans les conditions légales, qui sont différentes selon la longueur de la peine, vous pourrez solliciter un aménagement de peine qui sera, moi j'appelle pas ça tout à fait une alternative à l'incarcération, puisque ça a été précédé d'une incarcération. Donc en fait, c'est une espèce de continuation de l'exécution, mais sous une forme qui n'est pas, qui est moins contraignante, certes, enfin moins contraignante, et encore. La prison, c'est difficile, hein, on le sait tous. L'aménagement de peine peut être difficile aussi, en ce sens que je pense au bracelet électronique en particulier. La prison, c'est une contrainte externe. On vous impose d'être dans un endroit donné en suivant des règles données. C'est difficile, mais quelque part, vous êtes passif par rapport à ça. Vous n'avez pas tellement le choix d'être autre chose que passif. Lorsque vous êtes en aménagement de peine et sous bracelet en particulier, vous devez vous surveiller vous-même. Et c'est une contrainte interne, c'est une contrainte morale que vous vous imposez et qui demande une grande force morale et qui est aussi une contrainte d'un autre type, mais qui est également une contrainte qui n'est pas nécessairement si simple que ça à vivre.
Et justement, à ce niveau, est-ce que vous avez des retours ?
Oui. Effectivement, d'abord, le bracelet électronique, moi, je ne le propose comme mesure d'aménagement que quand je pense que les gens sont capables de le tenir, justement. Il faut des gens qui ont une structure mentale et une structure, des habitudes de vie qui leur permettent de savoir quelle heure il est, et que, effectivement, c'est l'heure de rentrer ou je peux sortir à partir de tel moment. Donc, on ne peut pas le proposer à tout le monde, d'après moi. Il y a des gens qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'ils sont socialement déstructurés, ne vont pas tenir. Et donc, on va mener à l'échec si on leur propose un bracelet. Et pour ce qui est de la durée pendant laquelle les gens sont placés sous bracelet électronique. Justement parce que c'est une contrainte interne qu'on s'impose, ça crée une tension particulière qui fait qu'au-delà d'un certain seuil, ça devient réellement très compliqué, très contraignant et très mal vécu, ce qui peut aussi mener à l'échec. Alors ce seuil, il est différent selon les gens, bien évidemment, mais c'est vrai qu'au-delà de 4 à 6 mois, ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Pour un certain nombre de personnes, là j'ai eu le retour d'une personne dont je me suis occupée, qui avait une mesure d'un an. Un an, c'est très long, hein. C'est très très long. Pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement structuré, d'extrêmement réglé dans sa vie. Mais au bout du 7e, 8e mois, il commence à me dire que bon, des choses toutes bêtes, hein. Il se trouve que le 7e ou le 8e mois, c'est tombé l'été. Bah, l'été, il devait être rentré à une certaine heure. Bon, on peut avoir envie d'aller se balader, de profiter du beau temps, de prendre un verre avec les copains, enfin ce genre de choses. Là, il faut rentrer. Et c'est vrai qu'on est en exécution de peine et que quelque part la contrainte elle est inhérente à cette exécution, mais elle peut être mal vécue au bout d'un certain temps.
Et est-ce qu'elle cause des effets psychologiques, du coup ?
Oui. Quand je dis tension, c'est à la fois une espèce d'angoisse de louper l'heure, quoi. Et c'est encore plus vrai pour le bracelet électronique que pour la semi-liberté, mais c'est l'angoisse de pas être rentré quand il faut et du coup d'être sanctionné. Donc ça crée vraiment un stress particulier, un stress qui souvent quand on est en famille se communique aux autres membres de la famille, parce que quand on est en détention, c'est une contrainte pour les familles que de venir vous voir. Quand on est à la maison avec un bracelet et qu'on est particulièrement stressé parce qu'on a justement la peur que cette mesure soit révoquée si jamais on loupait quelque chose, le stress, c'est contagieux.
C'est une épée de Damoclès, en fait.
Oui, absolument.
Mais... Et le bracelet sonne, en plus de ça, de manière intempestive ?
Non.
Ça,
non, non, non.
Il paraît ?
Il y a donc deux types de bracelets. Le placement sous surveillance électronique, classique, qu'on vous met soit à la cheville, soit au poignet. C'est un choix, hein. C'est vrai qu'à la cheville ça se voit moins, c'est moins évident, et qui fait qu'il y a un boîtier chez vous qui est situé à votre domicile, qui est raccordé au téléphone, qui fait que si vous n'êtes pas à proximité de ce boîtier pendant les heures où vous êtes obligé de rester chez vous, à ce moment-là ça sonne au niveau d'un central qui est géré par l'administration pénitentiaire et qui fait que ça va biper et que le surveillant qui surveille l'écran avec ses différentes personnes placées sous PSE va voir que vous n'êtes pas chez vous. Ça, c'est le premier type. Il y a un deuxième type, mais qui est plus rare et qui s'applique seulement sur certains types d'infractions, c'est le PSEM, le placement sous surveillance électronique mobile. À ce moment-là, non seulement, pareil, vous le portez au poignet ou à la cheville, hein, peu importe, ce bracelet vous permet de vous géolocaliser parce que vous avez des zones d'exclusion. Et effectivement, le système du PSEM n'est pas totalement au point. Donc, résultat, ça peut se déclencher de manière un peu tempestive. Il faut savoir que c'est... Vous devez, quand vous avez un PSEM, vous devez pouvoir être géolocalisé tout le temps. Si vous rentrez dans un parking au 3e sous-sol, vous disparaissez de l'écran. Donc ça sonne. Vous n'êtes pourtant pas en infraction avec quoi que ce soit, aux mesures qui ont été prononcées contre vous. Vous habitez dans un immeuble en béton, y a des coins où ça passera pas. C'est comme le téléphone portable, en fait.
Ok.
C'est exactement la même chose. Une copine Jap me parlait d'un de ses suivis. Ça ne passait pas dans les toilettes, le PSEM. C'est idiot, hein. Voilà. Bon. Donc.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que c'est l'achèvement du panoptique, le bracelet électronique ?
Ouais. Surtout le PSEM. Surtout le PSEM. Parce que le PSEM ne permet pas de vous géolocaliser. Donc ça vous oblige simplement à être chez vous pendant certaines heures. Mais le PSEM, tout à fait. Le PSEM, c'est Big Brother. Hein.
Ma question, moi, du coup, c'était savoir quelle était la tolérance, du coup, de l'administration pénitentiaire ou des juges vis-à-vis des infractions à ces placements sous surveillance électronique. Est-ce qu'il y a une certaine marge de tolérance ? Est-ce que, finalement, on a droit à l'erreur ou il y a une... Enfin, je sais qu'on avait reçu Camille Polony, qui est journaliste à Rue 89, qui suivait un détenu qui était en semi-liberté, donc qui avait des heures pour rentrer. Et elle avait notamment critiqué le fait que l'administration pénitentiaire était extrêmement rigoureuse vis-à-vis des heures de rentrée, alors que c'était aussi des heures de travail, des heures qui étaient, j'ai envie de dire, utilisées productivement. Et du coup, elle se plaignait du fait que dans cette semi-liberté, les contraintes étaient extrêmement rigoureuses. Est-ce que c'est effectivement le cas ? Est-ce qu'il y a une marge de tolérance ?
Alors, il y a deux choses. Quand une mesure est prononcée, que ce soit une mesure de semi-liberté ou une mesure de placement sous surveillance électronique, on a intérêt à apporter au juge qui va prononcer la décision le maximum d'éléments pour lui permettre de calibrer correctement les heures pendant lesquelles la personne peut sortir. Ça ne sert à rien de mettre des horaires qui seront intenables. Il faut un certain temps pour se rendre à son travail, il faut un certain temps pour en revenir. Et il y a l'aléa des embouteillages, des transports en commun. Tout le monde n'a pas la chance de prendre le RERD, mais enfin, il y a quand même beaucoup de monde qui le prend. Et on sait très bien que ça peut assez largement excéder ce qu'on peut imaginer quand on part. Donc, c'est effectivement, au départ, l'important de bien calibrer les choses. C'est aussi, si on se rend compte que ce n'est pas tenable, saisir son juge d'application des peines par l'intermédiaire de son CIP pour justement faire élargir éventuellement les horaires parce qu'on le justifie. Ensuite, quand
est-ce
on...
Est-ce que oui. Dans ce cas-là, tu peux revenir sur la manière exactement quand la personne détenue saisit le CIP pour celles qui pourraient entendre notre émission, savoir d'ordre pratique
Alors très pratique, quand quelqu'un est placé en aménagement de peine, il a un juge d'application des peines qui suit sa mesure. Donc, il est le juge d'application des peines de son département, de son domicile. Et puis, il a également un CIP, un conseiller d'insertion et de probation, qui le suit également, qui lui est dédié, et à qui il doit faire appel quand il a justement besoin de faire passer le message auprès du juge d'application des peines, de constituer, demander une permission de sortir, de demander à sortir du territoire, de demander à élargir ses horaires. Donc, à ce moment-là, c'est très simple, petit courrier ou coup de fil au service d'insertion et de probation, et rendez-vous, ensuite pièce justificative, éventuellement l'employeur qui fournit le document disant bah, « Écoutez, monsieur machin qui jusqu'à présent travaillait de 9h à midi et de 14h à 17h, j'ai décalé ses horaires, à partir de maintenant ça sera de 11h à 19h sans interruption. » Donc justificatif, à ce moment-là, possibilité de modification des horaires. Indépendamment de cette modification qui est une modification substantielle, ça peut être effectivement, bah, c'est tout bête, mais le métro s'arrête là maintenant et je suis coincé dedans et je regarde ma montre et je me rends compte que je vais être en retard. Quand on est, on a toujours le numéro soit de l'établissement dans lequel on est incarcéré quand on est en semi-liberté, soit du central qui permet d'appeler en disant, écoutez, là je suis coincé dans le métro à tel endroit. Alors, si on peut obtenir un justificatif, c'est parfait, et à ce moment-là, bah, on arrive en retard, ou on rentre chez soi en retard, mais on a le justificatif qui va bien. Si on n'en a pas parce que c'est pas possible, bah, à ce moment-là, de toute façon, prévenir immédiatement. Prévenir immédiatement qu'il y a un souci. Ne pas attendre que l'établissement se rende compte que vous êtes en retard, que le centre de Smith, ou ne pas attendre que le surveillant qui regarde son petit écran se rende compte que bah, il est 18h30 et que vous n'êtes pas rentré. Donc anticiper, toujours. C'est ça qui crée du stress aussi.
C'est après, c'est inégal. Par exemple, il paraît que Villejuif, c'est le plus cool à ce niveau-là, comparé à Fresnes. Ça, ils le disent, les détenus, oh là là.
Il y a des cultures d'établissements différentes, c'est évident. C'est évident. Et puis surtout, la tolérance ne sera pas la même si c'est exceptionnel ou si c'est habituel. Le gars qui rentre systématiquement en retard... C'est vrai qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. L'administration ne va pas le tolérer et va le signaler. Quelqu'un qui, malencontreusement, effectivement, se retrouve coincé dans le métro ou dans un embouteillage, ça peut arriver à tout le monde. Et à ce moment-là, bon, ben voilà. Ouais. Si, ça veut dire aussi que si c'est systématique, soit on pense que la personne est de mauvaise foi et rentre volontairement en retard parce qu'elle n'a pas envie de se soumettre à la contrainte, soit... c'est parce que effectivement les horaires sont mal calibrés et c'est peut-être l'occasion d'une réflexion. Mais c'est vrai que selon les établissements, c'est plus ou moins tolérant. Ça, c'est une réalité. C'est vrai.
Merci beaucoup Virginie Bianchi. On va juste faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes et tu veilles, t'es tout écorché. T'es comme un chat triste, perdu sur la liste des objets trouvés. La nuit carcérale, tombant sur les dalles et ce lit glacé. Aller et venir, soleil et sourire sont de l'autre côté. Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. cette solitude si dure et si rude qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune sur le sol allume visage oublié de celui que t'aimes qui tire sur sa chaîne comme un loup blessé. Betty, faut pas craquer. Betty, faut pas plonger. Je sais, ils t'ont couché là. Et puis, ils ont fermé leurs barreaux d'acier. Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. J'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime dans ce court poème, dans ce long baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt.
Vous écoutez bien l'émission du Junipi, ici l'ombre, les voix captives. Nous sommes avec Virginie Bianchi, qui est avocate et ancienne directrice de la maison centrale de Clairvaux. Oui, donc Virginie, nous recevons pour débattre des mesures alternatives. Et aujourd'hui, suite à la décision, enfin aux décisions rendues par la, est-ce que quelqu'un peut, tu peux lancer sur la conférence de consensus ou tu arriveras pas? Oui, bon.
Moi, je veux bien faire si tu me dis ta question en fait.
Ouais.
Bon. Pas parce que t'as l'air.
Ok, d'accord. Non, mais on va couper, c'est pas grave. La conférence de consensus a remis en cause la peine de prison comme étant la peine de référence. Et dans la loi Taubira, une nouvelle peine a été instaurée qui semble sortir du cadre de la peine de privative de liberté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu davantage et nous rappeler un peu les éléments de réflexion qu'avait soulevé la conférence de consensus à ce sujet?
En fait, depuis la Révolution, la peine de référence, c'est la peine d'emprisonnement, ou la peine de réclusion, en tout cas l'incarcération. Et pendant très longtemps, on a fonctionné sur cette peine-là, et puis petit à petit se sont mis en place un certain nombre de peines alternatives, mais qui faisaient toujours référence à l'emprisonnement. L'emprisonnement restant vraiment le maître étalon de la pénalité, à la fois pour les magistrats, mais aussi pour la société. En gros, on était vraiment puni si on allait en prison. Et même l'instauration des mesures alternatives, précisément parce qu'elles faisaient référence à l'emprisonnement, n'a pas cette évolution avec l'augmentation du panel des peines alternatives n'a pas changé cette vision des choses. En fait, on est resté sur cette idée qu'il y a la prison, il y a les peines alternatives, et si jamais on ne respecte pas les modalités de la peine alternative, c'est retour à la case prison. Donc en fait, on tournait un petit peu en rond. L'intérêt, pour moi, de la contrainte pénale, qui est donc cette nouvelle peine qui est proposée suite à la conférence de consensus, qui va être examinée là, à partir du 3 juin à l'Assemblée nationale, l'intérêt, c'est justement de changer de philosophie et de se dire que cette peine va être détachée de toute référence à l'emprisonnement. Elle va exister en tant que telle, elle va être autonome et qu'elle ne fera pas référence à une peine d'emprisonnement. Truc tout bête, mais on est condamné à un sursis tige. Si on n'effectue pas son sursis tige, eh bien c'est retour à la case prison. Si on est condamné à des jours amende, si on ne paye pas l'amende qui correspond, on repart en prison. Mmh. Là, la contrainte pénale, c'est pas ça. C'est vraiment autre chose. C'est l'idée de d'imposer un certain nombre de contraintes parce qu'on est quand même dans le cadre d'une peine, qui vont encadrer la personne qui a été condamnée, mais qui vont l'encadrer dans une perspective de réinsertion. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur quelque chose qui lie la contrainte et l'insertion, qui évite la désinsertion dans un premier temps, ce qui est quand même pas rien, et qui ensuite permet aux gens, précisément parce qu'ils sont libres avec des contraintes, de rester insérés ou de se réinsérer dans la société. Donc on est vraiment sur une philosophie différente. On entend beaucoup, oui, mais on a déjà la semi-liberté, on a déjà le PSE, on a déjà le sursis. C'est vrai. Mais même si en pratique, quand vous êtes condamné à un sursis avec mise à l'épreuve, en gros, ça ressemblera sur les modalités à la contrainte pénale, c'est-à-dire l'obligation d'un certain nombre de choses.
Sans l'épée de Damoclès.
Mais sans l'épée de Damoclès et sans cette référence philosophique à la peine d'emprisonnement. C'est ça qui va changer. C'est pas tant les modalités, ça sera tout aussi contraignant, mais dans un autre état d'esprit. Et c'est ça qui est intéressant à mon sens. Je ne sais pas si les magistrats vont s'emparer de cette peine. J'en sais rien, je ne sais pas. Parce que on peut changer les lois, c'est plus difficile de changer ce qu'il y a dans les têtes. Le vrai apport de ça, c'est cette réflexion autour de qu'est-ce que la peine et à quoi elle sert.
Pour autant, c'est vrai que dans le milieu de la justice, cette réforme semble être en demi-teinte. Est-ce que tu peux nous dire quelles étaient un peu les critiques qui avaient été soulevées ? Est-ce que c'est l'incapacité d'un pouvoir politique à supprimer des peines sans faire croire... sans pour autant vouloir dégorger les prisons, entre guillemets, je comprends tout à fait, mais quelles étaient les critiques qui étaient soulevées par le risque de dégorger les prisons, j'aime pas ce terme, mais pourquoi cette réforme a soulevé autant de critiques, d'insatisfaction de la part du monde de...
Alors, j'ai le sentiment qu'on avait tous envie que cette réforme aille beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin et aborde beaucoup plus de choses. C'est vrai que cette contrainte pénale, elle est intéressante justement à cause du changement philosophique qu'elle induit. À côté de ça, beaucoup d'autres chantiers sont pour l'instant restés totalement en suspens. Et c'est aussi une des raisons d'insatisfaction. À la fois pour les gens qui sont favorables à l'emprisonnement en tant que peine de référence, la contrainte leur apparaît trop légère, la contrainte pénale, trop peu punitive finalement. Et pour les gens qui pensent que la réflexion autour de la peine doit être beaucoup plus large et beaucoup plus vaste, c'est vrai qu'il y a une frustration. Il y a une frustration parce que tellement de chantiers autres sont possibles, tellement de réflexions possibles sur, la surveillance de sûreté, la rétention de sûreté, sur les peines planchers, sur les mesures de sûreté, sur les peines de sûreté. Enfin, tous ces débats-là, et en particulier ces débats qui touchent les longues peines, ne sont pas dans la réforme finalement. Et c'est à la fois très satisfaisant d'avoir cette orientation philosophique autour de ce projet, mais c'est frustrant. C'est terriblement frustrant.
Mais les peines planchers vont être supprimées ?
C'est pas encore voté. J'attends.
Mais là, et l'abaissement du seuil de 5 ans d'incarcération à 6 mois, ça réduit le sens de la contrainte pénale. C'est un petit pas au lieu d'un grand pas.
Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est un petit pas au lieu d'un grand pas. C'est une espèce de semi-réforme, a-t-on l'impression. Alors, avec ce que le Parlement pourra faire aussi. Avec le Parlement, il y a aussi un pouvoir d'initiative, un pouvoir d'amendement qui peut effectivement amender certains points, revenir sur certains points. Je pense en particulier effectivement à l'abaissement des seuils qui permettent l'aménagement de peine. Aujourd'hui, on peut bénéficier d'un aménagement de peine sans incarcération si on est condamné à une peine inférieure à 2 ans ou 1 an si on est récidiviste. Avec le projet de réforme tel qu'en l'état, les seuils passeront à 1 an et 6 mois. Donc c'est vrai que c'est une véritable régression. Voyons ce que le Parlement va en faire. Mais au-delà de ces modifications, disons sur les marges, parce que les amendements ne touchent jamais que, entre guillemets, des marges, ce qui est regrettable, c'est que certains thèmes même n'aient pas été abordés dans cette réforme pénale.
Comme ?
Bah, je pensais précisément à la surveillance de sûreté. Je pensais à la surveillance et à la rétention de sûreté. Ça faisait partie des chantiers qui devaient être ouverts. Aucune modification législative n'a eu lieu depuis que la gauche est au pouvoir. Et visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, on est... sur des mesures qui touchent, cette mesure-là en particulier, un nombre infime de personnes, certes, mais ce sont des mesures extrêmement symboliques. Et la justice, c'est aussi du symbole. Ça s'inscrit dans la vraie vie des gens. Quand on est en prison, bah, c'est pas comme quand on est libre. Alors ça, oui, ça s'inscrit dans le corps des gens. Et puis, ça s'inscrit dans le symbole. Le symbole, c'est ne pas accepter certains types de peines, certains types de châtiments ou certains types de mesures. Et la surveillance-rétention, la surveillance et la rétention, ça fait précisément partie de ces symboles.
Donc Virginie Bianchi, dans une autre vie, vous avez été directrice de la centrale de Clairvaux. Et que gardez-vous de cette expérience ?
Alors, ce n'était pas dans une autre vie, c'était très exactement la même vie, mais c'était juste avant. Ce que je garde de cette expérience, c'est vraiment une expérience de la souffrance, de la souffrance humaine. De la souffrance infligée, parce que les gens qui sont là ont tous commis des infractions graves, et de la souffrance vécue par l'enfermement long. Et cette espèce d'érosion des personnes au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est vraiment une impression, c'est difficile à définir. C'est difficile à définir, mais c'est vraiment une... Enfin oui, c'est le mot souffrance qui me vient, qui me semble être le plus emblématique de Clairvaux. Mais Clairvaux, en tant que établissement pour longue peine, hein, c'est tout aussi valable pour d'autres établissements pour longue peine.
Bon, merci Virginie Bianchi pour cette première émission. Nous retrouvons donc la semaine prochaine pour parler un peu de ton rôle dans les suivis des longues peines. À la semaine prochaine.
Merci.
Si vous êtes détenu ou proche d'une personne détenue, n'hésitez pas à nous adresser vos messages et ou vos dédicaces musicales à soit par courrier à la Maison des Initiatives étudiantes à l'attention du Génépi, 50 rue des Tournelles, 75 003 Paris, ou alors par mail à icilombre1314@genepi.fr ou bien encore sur notre page Facebook Ici l'Ombre, ou enfin par téléphone au 06 87 43 87 91 06 87 43 87 91. Attention, trois conditions, pas de message codé, pas de nom de famille et pas de référence au passé pénal. Vous écoutiez bien l'émission du Génépi de France, Ici l'Ombre, les voix captives, sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Tout de suite, retrouvez L'œil à l'écoute, une émission animée par une association qui promeut la création sonore sur les ondes. Bonne fin de week-end et on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Campus Paris 93.9 FM. D'ici là, suivez-nous sur les ondes et ne restez pas dans l'ombre. Let the good shine.